7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Avant qu'on se lance dans tes sujets, deux choses. D'abord, dans la liste des gens qui vont prendre la parole au funérailles de M. Landry, j'écoutais Bernard, puis il y a un nom qui n'est pas sorti, puis des auditeurs me l'ont signalé. C'est le nom de Pauline Marois. Je suis un peu étonné. Je comprends que c'était des rivaux politiques à une époque, là, mais tous les anciens premiers ministres témoignent, et pas Mme Marois.
Effectivement.
Je trouve ça c'est un peu étonnant. Ça, c'est... Je sais pas. Et Bernard me dit non, elle n'est pas sur la liste. Alors que Jean Charest soit là, que M. Bouchard soit là, je comprends qu'il y a d'autres anciens premiers ministres, là, mais que vraiment que Mme Marois, qui a été la première ministre et qui est du même parti.
Dans le même parti.
C'est... Je sais qu'il y a eu des rivalités dans le passé quand M. Landry a quitté, peut-être. Là. Mais bon, en tout cas.
Donc, c'est singulier.
Oui. Deuxième chose, beaucoup d'auditeurs m'écrivent ce matin pour me parler de mises à pied qui ont cours actuellement au CN. Okay. Et ça a commencé vendredi, me disent les auditeurs. Je vous donne quelques détails. Et là, il n'y a évidemment pas de précision comme telle, mais on parle de 250 personnes qui seraient touchées. Des gens qui sont, dans certains cas, près de la retraite, mais d'autres pas. Des gens qui sont dans le département des technologies. On parle d'employés permanents, de contractuels. Autrement dit, là, c'est une espèce de restructuration. Et ça fait 4-5 courriels que je reçois. Je n'ai pas pu valider avec le CN, mais il semble que ça a commencé vendredi. Puis là, tu sais, l'espèce de formule classique, les gens se font accompagner à la sortie.
Ce qui est difficile, c'est juste avant Noël. Noël, c'est fermé l'emploi. T'sais. Donc, t'as ton temps de te retrouver un autre emploi et de recommencer l'année en janvier, février. Donc, c'est un dur moment pour perdre son emploi.
Oui, puis en parlant, je rappelle aussi qu'il y a une grève de 3 jours décrétée à la SAQ. Alors, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Alain est au courant?
Oui, Alain est au courant, mais c'est pas ça qui est important. Tu sais que ça arrive à un moment précis. C'est la dernière grosse vente de la SAQ avant Noël.
Ah, on va manquer les rabais.
Tu sais, les rabais puis les points, là.
Pas, tu me fais mal.
Non, mais je sais, je l'ai juste mentionné.
D'accord.
On va parler du marché boursier, tiens, qui hier, encore une fois, a baissé.
Oui, il faut s'habituer à la volatilité. C'est comme le Canadien. T'sais, des fois, il gagne, des fois, il perd. Puis là, on va être dans un marché que j'appelle, on est depuis le début de l'année, en chameau. Pourquoi en chameau? Parce que si vous regardez la courbe des grandes bourses, ça fait comme le dos d'un chameau. Deux bosses qui montent et qui descendent. Mais si vous regardez sur une année, c'est moins pire. D'ailleurs, hier, là, on a perdu chez Amazon 4%, Apple 5%, Netflix 3%. Donc, les entreprises qui sont au niveau technologique nous font gagner de l'argent, mais nous font perdre beaucoup en même temps. Même du côté du Nasdaq, là, tu sais, le Nasdaq a été sur les stéroïdes cette année. Il est monté jusqu'à 8000 points et là, on est rendu à 7200, mais c'est encore quand même, depuis le début de l'année, un rendement de 4%, puis sur un an au complet, 6,6. Donc, on est dans cette logique-là de commencer à voir ses placements d'une façon beaucoup plus à moyen terme et arrêter de le regarder quotidiennement. Regarder la bourse quotidiennement ces temps-ci, c'est comme regarder la météo puis attendre qu'il fasse soleil. Il y a des journées que tu vas être déprimé.
vu comme ça, c'est sûr. Mais moi, c'est quoi? Ça m'énerve pas trop. C'est-à-dire
non?
Que, tu sais, il n'y a personne qui aime ça. Là. Mm-hmm. Des fois, tu trouves que ça descend vite puis que ça remonte plus tranquillement. Puis d'autres fois, tu dis, bon, ben là, ça a l'air d'être reparti un peu ou...
Et ceux qui ont connu la crise financière ne s'inquiètent plus avec des 5-6% de variation.
Non, mais tu sais, il n'y a personne qui aime ça non plus. Là.
Non,
c'est clair. Les autorités fiscales sont parfois conservatrices, voire même discriminatoires.
Oui, Paul, je t'en ai ce matin, il fallait que je t'en parle. Notre fiscaliste ou notre fisc national ou l'Agence du revenu du Canada puis Revenu Québec sont un peu pris en 1950. On fait de la discrimination envers les célibataires, envers les couples atypiques, envers les gens qui trouvent pas preneur sur le marché de l'amour ou qui ne veulent pas trouver preneur. Puis il y a une survalorisation de la famille sous un même toit. Je t'explique. Mettons que tu t'en vas dans la déclaration annuelle, on dit faut que tu te déclares célibataire, conjoint de fait, époux ou séparé. Parce que quand t'es époux, t'es marqué au fer rouge, t'es quelqu'un d'important, t'as réussi ta vie selon le fils, tu comprends? Puis, pourtant, il y a aucun concept de « it's complicated » comme sur Facebook, tu sais. Parce que les gens qui comment je pourrais dire ça, qui ont une reconstitution familiale ou qui ont une vie compliquée, ils ne se retrouvent pas avec le fisc. Le fisc les discrimine. Je te donne un exemple. T'as Jaden. Jaden a un enfant. Puis, il rencontre Océane, qui a un enfant aussi. Chacun décide de vivre sous des toits séparés. Jaden et Océane sont amoureux comme ça se peut pas, Paul. Ils sont très heureux. Mais ils ne vivent pas ensemble. Le fisc leur dit... C'est bien de valeur, mais pour nous, vous ne formez pas une unité familiale. Même si ça fait 10 ans que vous vivez proche, puis que vous avez des relations conjugales, que vous allez au cinéma, des projets de vacances, mais vous ne vivez pas sur le même toit. Donc, vous allez devoir vous battre pour votre relation conjugale au niveau fiscal et avoir les avantages. Par contre, Roger et Gertrude, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, ils se parlent plus, vivent chacun. Roger s'est bâti un garage dans le fond de la cour, puis il vit pas mal là, il a même installé une toilette, tu sais. Lui, légalement, il vit sous le même toit, il peut rouler son CELI, rouler son REER et rouler son actif immobilier. Et là, t'as...
Non, mais comment tu fais, là? Je te pose, mettons, je me fais l'avocat du diable, un couple qui vit pas ensemble. Comment tu fais quand t'es un employé de l'État, là, pour déterminer, oui, ils vivent pas ensemble, mais c'est un couple, ils sont amoureux, ils ont, je sais pas, il faut qu'il y ait quoi, des propriétés communes. Comment tu fais pour...
On peut-tu éliminer ça, Paul? Puis juste se dire, vous avez deux choix dans la vie. Vous mettre A, en association économique, ou B, en non-association économique. Parce que, Paul, le couple, c'est une association économique. C'est la mise en commun d'actifs. C'est ça que c'est, OK, au niveau fiscal. Donc, on pourrait dire à tous les Canadiens, tous les Québécois, de dire, OK, vous décidez avec la personne avec qui vous vous mettez en association économique. Vous avez droit à une personne à la fois, mais vous n'êtes pas obligé d'être en relation conjugale avec. Et là, je pousse la réflexion plus loin, Paul.
Ah, OK. Là, moi, t'élargis le...
Ben oui, parce que si, mettons, tu veux que ça soit ta blonde ou ton chum et que tu vis pas avec, tu choisis. Si tu veux que ça soit ton ami, tu peux aussi. Si tu veux que ça soit ton ami d'enfance ou ton voisin, tu peux aussi. Parce que les personnes qui sont pas capables de profiter du fait qu'ils trouvent quelqu'un sur le marché de l'amour, là, ben, ils peuvent pas partager leur risque. Ils peuvent pas fractionner, t'sais, renvoyer son REER au coût. Ils peuvent pas, à sa mort, dire, hey, toi, je te lègue mon triplex au coût, tu t'imposeras lorsque tu le vendras. Mais quand t'es en couple, oui. Donc, on fait de la discrimination envers les gens qui n'ont pas la chance de trouver sur le marché de l'amour. Et je trouve ça assez discriminatoire, merci, parce qu'un citoyen, il y a déjà assez de l'inégalité économique. Il y a aussi celle amoureuse. Mais si, en plus, au fisc, tu me pénalises parce que je suis incapable de trouver valeur marchande équivalente à moi au niveau de l'amour, tu me pénalises. Donc, deux personnes qui ne trouvent pas l'amour devraient pouvoir s'associer économiquement pour partager leur régime de retraite, partager le REER, le CELI, se rouler des actifs, puis pouvoir être en association économique sans devoir justifier s'ils s'aiment ou pas. Tu sais, prééminence, la substance économique sur la forme juridique, faudrait qu'on revoie la fiscalité pour éliminer la discrimination.
Mais tu sais que c'est large. Tu sais, exemple, quand tu, je sais pas, t'es bénéficiaire de l'aide sociale, c'est-tu un conjoint, c'est-tu un coloc, qu'est-ce que tu partages?
Ben oui, mais...
T'en as plein comme ça aussi, là.
Ben on va aller plus loin. Ton conjoint ou ta conjointe tombe handicapé, mettons. Est victime d'une vie, donc fait en sorte qu'il devient avec un état de vie qui doit être vivre avec un handicap, OK?
Ouais.
Là, cette personne-là, normalement, serait aidée par l'État si elle était toute seule. Tu sais, si elle devient invalide, par exemple. Mais toi, comme elle vit avec toi, toi, ils disent, ben toi, on va y couper son aide parce que toi, tu vis avec. Mais en plus, toi, faut que tu t'en occupes. Mais en plus, on va pénaliser la personne parce qu'on y versera pas d'aide parce qu'elle est aidée par quelqu'un d'autre. En plus, ça, c'est une autre inégalité. Tu sais, quand t'es en misère, mais que t'es en conjoint de fait avec quelqu'un, on dit ton conjoint de fait doit subvenir à tes besoins. Attention, l'indépendance de la personne, on fait quoi avec ça? Elle est prise pour être dépendante d'une autre personne et pénaliser la personne qui est en relation de couple avec. Donc, tu vois, Paul, la fiscalité vit en 1950, elle doit évoluer.
Merci, monsieur. Bonne journée. Salut. 7h25.